Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au
Capi. Union libre, quels sont les inconvénients? Eh bien, les unions libres ou mariages de fait sont fréquents en République démocratique du Congo et les couples vivent ensemble et mettent au monde des enfants sans pour autant être mariés, sans être mariés. Alors, quels sont les inconvénients? Y a-t-il aussi des avantages de ces genres d'unions, de ces genres de relations? Eh bien, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui le professeur Adela Kwanzaka, sociologue. Professeur, encore une fois, bonjour et nos meilleurs voeux.
Merci, je vous les réciproque.
Bien. Alors, dites-nous, professeur, qu'est-ce qu'on entend par union libre ou mariage de fait?
L'union libre, c'est l'union de fait. C'est l'union contraire à l'union de droit. Parce que, en fait, le mariage, pour que l'union soit une union de droit, le mariage chez nous exige comme condition fondamentale, comme condition préalable, le versement de la dot. Tout mariage ou toute union qui n'a pas obéi à ce principe ou qui n'a pas rempli cette condition fondamentale est classée dans la série d'unions libres. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour le moment.
Voilà. Mais sous d'autres cieux, dans d'autres sociétés, est-ce que les gens se marient comme chez nous ici? On a l'impression que les gens peuvent vivre ensemble sans pour autant être mariés.
Oui, mais en ce moment-là, on ne parle pas de mariage. On parle effectivement d'union libre, de concubinage, de partenaires. Donc, là, c'est pas le mariage. Donc, oui. C'est l'union libre, c'est le ce sont les partenaires sexuels. Ce ne sont pas de gens qui seraient mariés légitimement et légalement.
Bien. Alors, professeur, qu'est-ce qui est à l'origine de ce genre d'union ou de ce genre de relation?
Il y a plusieurs facteurs à la base de. Allô?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs motivations qui sont donc variées. Je peux en énumérer quelques-unes. Mm-hmm. La première motivation, c'est la pauvreté. La pauvreté, aujourd'hui, fait que le jeune, les candidats au mariage n'ont pas la possibilité de constituer le montant qu'on exige pour la dot et toutes les autres valeurs. Donc, surtout le jeune. Et quand ils n'ont pas cet argent-là, ils prennent ce qu'on appelle à Kinshasa le Ndela Mokuse. C'est-à-dire qu'ils s'engagent par l'union libre, le phénomène Yabato Vanda. Mm-hmm. L'autre motivation que je peux retenir, c'est la rareté des candidats hommes au mariage. Vous savez, quand les hommes, quand les enfants naissent, il y a toujours un taux plus élevé de filles que de garçons. Des garçons que de filles. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, la tendance se renverse. C'est-à-dire qu'il y a, le meurt plus que les femmes.
Donc il y a plus de filles.
À des âges avancés, il y a plus de femmes que d'hommes plutôt.
Oui.
Donc ce qui fait que il y a peu de candidats hommes et pour plusieurs candidats femmes. Il y a également la nostalgie de la polygamie villageoise. Vous savez, pour les hommes mariés, ils sont pratiquement entre le marché et l'enclume. Ils sont dans une situation ambivalente. Ils sont mariés officiellement et à mariage monogamique, mais comme ils ne peuvent pas, ils ont un peu des réserves, ils ont un peu honte pour se marier pour aller en mariage polygamique. Mmh. Alors ils s'engagent sur cette voie-là d'union libre. Et l'autre phénomène, l'autre facteur que je peux citer, c'est la liberté excessive de la vie urbaine. Mmh. Vous savez, ici les gens sont très libres. il n'y a pas de contrôle social rigoureux. Cela est facilité par l'anonymat de la ville. Chacun mène sa vie, il est libre, il est loin de sa famille, loin de son clan, et personne ne peut lui dire que ceci est bon ou cela est mauvais. Donc, cette liberté excessive de la vie urbaine facilite beaucoup de choses, notamment cette affaire d'union libre.
Parce qu'il y a des couples où on trouve des gens qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants et qui vivent comme ça. Les enfants grandissent, ils vont à l'université et voilà, ils continuent à vivre dans cette situation-là pendant plusieurs années. Alors, quels peuvent être les inconvénients qui peuvent découler de ce genre de relations?
Moi, je crois qu'il y a des conséquences. Hein. Les conséquences sont multiples concernant cette situation, notamment sur les enfants. Le phénomène Chegué. Vous avez mis au monde des enfants en union libre. Déjà, vous n'avez pas eu la possibilité de vous constituer une dot pour avoir une femme. Et vous avez des enfants qui naissent comme ça. Et vous n'avez pas la possibilité de les prendre en charge. Et quand les enfants ont des difficultés pour satisfaire à leurs besoins, ils ne trouvent pas mieux que se déserter, fuguer, si vous voulez, le toit parental et aller dans la rue pour chercher à survivre. Et c'est ça, d'ailleurs, qui contribue au phénomène Chegué, donc les enfants de la rue. Il y a aussi la banalisation du mariage en tant que fondateur de l'institution de la famille. Mais les gens qui sont en union libre banalisent tout, le mariage, parce que c'est un processus allant des fiançailles jusqu'au mariage, et puis la prise en charge des enfants, etc. Donc là, on banalise le mariage avec tout ce qui est là comme bien fait. Et puis, il y a l'illégitimité et l'illégalité de la progéniture. Ces enfants qui naissent de telles unions, ce sont des enfants qui ne sont pas reconnus ni par la communauté, ni par l'État. Ce sont des enfants illégitimes. Malgré que dans le code de la famille, si on dit que tout enfant a droit à un père, mais non, vous savez, ce droit-là ne se croit pas, on ne peut pas seulement le proclamer.
Oui.
Il faut remplir d'abord la condition fondamentale du mariage, c'est verser la dot. C'est ça dans la société congolaise ici. Si vous n'avez pas versé la dot, la progéniture que vous avez, c'est pas votre progéniture. D'ailleurs, au village, on voit même que dans certaines sociétés, dans certains groupes sociaux congolais, on considère ses enfants comme faisant partie de la famille de sa mère. C'est tout. Donc, ce ne sont pas vos enfants.
Ce ne sont pas vos enfants. Ouais. Vous avez des questions, des témoignages, des préoccupations par rapport à ces thèmes. Appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Union libre, quels sont les inconvénients de ce genre de relation? Raphaël Tumunga, vous êtes à Lubumbashi, et Esther Oubedi nous appelle de Mahagi, en province orientale. Raphaël, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, je voulais vous dire que ce qui est à l'origine du mariage, c'est qu'il y a certains parents qui ont l'esprit de la tradition. Parce que dans les cas jadis, ce sont les parents qui choisissaient les enfants des femmes ou les femmes. Alors, c'est pourquoi il y a certains parents qui, jusqu'à aujourd'hui, influencent les enfants de pouvoir se marier à certaines personnes. Et lorsque les enfants n'arrivent pas à accepter le mesure donné par les parents vont les abandonner. Et cela va causer beaucoup de problèmes. Et aussi, il y a certaines coutumes où on oblige les gens de là de se marier entre eux. Et lorsque vous osez sortir de votre coutume, il y a des conséquences. Il y a des mères ou des stérilités. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de conséquences. Surtout des problèmes d'influence des parents.
Merci Raphaël pour ce témoignage. Vous dites que si il y a certains parents qui imposent à leurs enfants, voilà, vous devez prendre telle ou telle autre femme. Alors s'ils s'entêtent, eh bien, tu vas t'es débrouillé quoi. Ils te soutiennent pas. Et Esther Oubedi, vous êtes à Maggie. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité ainsi que tous les fidèles auditeurs de la radio de la Terre. Merci pour le sujet du jour qui fait bien sûr un des éléments de la vie quotidienne.
Alors,
j'ai deux questions à poser à notre invité.
Oui.
Oui, la première question, est-ce qu'un mariage traditionnel ou coutumier peut-il être aussi considéré comme une union libre? Du fait que ce type de mariage n'est pas souvent inscrit, selon moi, hein, dans les documents de l'état civil. Et la deuxième question, concernant ce type d'union, si l'un des conjoints vient découvrir les conséquences néfastes de ce type d'union et veut délibérément se désengager et que son conjoint ne veut pas lui céder facilement, que peut-il faire dans ce cas? Quelle procédure suivre pour arriver à se désengager sans problème? Est-ce qu'il faut encore entrer au niveau de la coutume ou de la tradition comme vous avez commencé au début? Merci.
Oui, dites-nous Esther, est-ce que à Maggie il y a beaucoup d'unions libres? Vous connaissez quelques unions libres, ce mariage de fête là où vous vivez?
Ah oui, vous savez, dans des milieux reculés, le mariage légal, le civil, tout ça, bon, les gens, ils en pratiquent, mais la plupart de la population, vraiment, ils rentrent au niveau de cette union libre, soit tout est réglé au niveau de la tradition, de la coutume. Vous voyez, les conséquences, c'est que quand on n'est pas inscrit dans les livres de l'état civil, à la longue, ça peut créer toujours des problèmes au niveau social et au niveau de la famille aussi.
Alors, ok, on retient que bon nombre de couples à Maggie se limitent au mariage coutumier et certains ne vont pas devant l'officier de l'état civil. Merci. Ismaël Mompo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, dites-nous quelle est la situation à Lubumbashi. Est-ce que vous avez noté, enregistré beaucoup des unions libres là-bas?
Oui, c'est ici, ça bat coréen. Mais juste avant même de commenter, c'est que par rapport à la question, j'avais voulu d'abord soulever une petite question. Donc, on dit que les mariages soient honorables chez tous, et car les liens conjugaux soient sans suivi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est par exemple, ceux qui se sont unis avant même de faire le mariage, ils ont déjà donné naissance. Après quelques temps ou quelques années, ils se donnent des bagues, ils entrent à l'église et on consacre même ça, on dit le mariage. Juste, j'avais voulu interpeller quand on dit que les mariages sont honorables et tout. C'est par exemple, l'État devait mettre les, c'est-à-dire on va passer par la commune faire le mariage des cas civils. Puis l'église va maintenant intervenir. Ce qui se passe ici à Lubumbashi, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens se contactent seulement, on commémore les mariages seulement dans l'église et l'État n'est pas au courant. Alors, comme avantage, c'est quoi? Quand on veut un peu divorcer, c'est libre, on peut faire et quoi que ce soit. Maintenant, des avantages, c'est quoi? Juste les enfants qu'on a mis au monde par un mariage libre ou l'union libre, et ça cause beaucoup de problèmes et les enfants, là, vous les verrez en route, et des difficultés. Alors, je demanderai maintenant une petite question, c'est de savoir quel peut être le rôle de l'État pour savoir, pour que le mariage soit honorable et tous, et pour qu'on aboutisse jamais à plus de divorces ici à Lubumbashi. Et les avortements que nous enregistrons ici à Lubumbashi ne sont même pas des jeunes filles, ce sont des mamans de la maison qui peuvent venir. Non, vous voyez, j'ai déjà 4 ans, je suis encore chez mes parents. Alors, aide-moi, c'est qu'il y ait ça. Là, c'est ça maintenant les difficultés. Nous avons des avortements parce qu'il y a les mariages libres et les mariages non contrôlés. Alors, l'État peut mettre aussi la main sur ça des problèmes.
Merci. Professeur Adela.
Merci, j'ai bien entendu, j'ai bien suivi les préoccupations des auditeurs. Mm-hmm. Je commence par Ismaël, qui parle du mariage, de naissance avant le mariage. Mm-hmm. crois que c'est effectivement, ça c'est un phénomène typiquement urbain. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans notre société traditionnelle, encore un peu en milieu rural aujourd'hui, et ce qui se passe en milieu urbain. En milieu rural, il est rare de voir une grossesse qui n'est pas le résultat d'une dot. Donc, le jeune n'était pas autorisé, et un peu maintenant encore, ne sont pas autorisés d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, et surtout quand de tels rapports provoquent des grossesses, c'était grave. Ça pouvait même entraîner mort d'homme.
Oui.
Et pour ce qui est du mariage qui serait venu dans les églises sans passer par l'état
civil,
ouais. Ça, je ne sais pas c'est quel type d'église dont il s'agit. En principe, les églises traditionnelles que nous connaissons ici, catholiques, protestantes, etc., et même l'état civil, il y a un processus. Quand vous allez à l'état civil, on vous demande d'abord le preuve du versement de la dot. Donc, quand vous allez à la commune, vous allez à la mairie, on vous demande d'abord le preuve du versement de la dot, sinon le mariage ne peut pas être conclu. Ensuite, si vous avez versé la dot, on vous marie à la commune, et quand vous arrivez à l'église, on vous demande le preuve du mariage civil. Est-ce que l'État connaît ce mariage? Est-ce que la coutume a été respectée, etc.? Donc, sinon, si vous ne faites pas ça, si vous ne montrez pas de preuves au niveau de l'Église, on ne vous marie pas non plus. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi cela? C'est parce que nous vivons dans un bicéphalisme juridique. Nous avons le droit coutumier et le droit positif, donc du type occidental imposé par la colonisation. Et les deux coutumes cohabitent en fait, c'est complète. Donc ça. Versement de la dot, au plus l'État ne peut pas accepter votre mariage, ne peut même pas le célébrer, l'Église non plus. Donc le rôle de l'État a déjà mis des mécanismes pour montrer la voie aux citoyens pour se marier.
Alors, Adelard Kondjaka, alors on peut dire que le mariage de fait ou l'union libre, c'est lorsque le mari n'a rien versé à la famille, ou bien certains se limitent peut-être à faire la présentation, comme on l'a dit ici, Kangalupango, et puis il donne rien, il prend sa femme et ils vivent ensemble.
Justement, il faut verser la dot. Déjà, quand il y a le processus, il y a des gens qui prennent toujours ce qu'on appelle les raccourcis pour. Ils viennent, ils déposent ce qu'on appelle les Kangalupango, mais il y a des parents qui sont très exigeants. Tant que vous n'avez pas versé, ne fût-ce que les trois quarts de tout ce qui a été demandé comme dot, on ne vous permet pas de prendre la femme en question. Donc, l'État a prévu des mécanismes réglementent le mariage. Et je vais un peu m'attarder sur ce que Ismaël a dit concernant les avortements dans le mariage. Je crois que c'est quand même dommage, parce que les gens qui vont avorter, ils vivent en union libre, ils sont majeurs. S'ils ne veulent pas d'enfants, ils doivent prendre des précautions. Il y a différents services de santé de la reproduction, de naissance désirable, etc. Vous avez des structures comme l'association de bien-être familial, naissance désirable. Je sais qu'il y a une antenne à Lubumbashi, et il y a le programme national de santé de la reproduction, etc. Donc, ces femmes-là devraient se protéger parce que les enfants, l'avortement comporte beaucoup de risques. Hein, donc, ça, c'est une parenthèse. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre compatriote de Mag,
oui,
qui estime que tous les mariages traditionnels célébrés là-bas
elle dit que là-bas, à Mahagi, la plupart des personnes se limitent au mariage coutumier et ne vont pas plus loin. Et elle dit que si l'un des époux veut se désengager, comment le faire dans ce mariage-là?
Oui, c'est pour cela qu'il est exigé que Je parlais de bicéphalisme juridique. Nous avons deux systèmes de droit qui nous régissent. Il y a le droit coutumier et le droit positif, et qui parfois entrent en contradiction et cela a des conséquences sur le mariage. Donc, il est exigé que quand vous avez célébré, quand les parents ont accepté la dot, on a célébré en famille le mariage, donc ce qu'on appelle mariage coutumier, il est conseillé que ce mariage soit sanctionné par le pouvoir public, en fait, le pouvoir qui agit sur le droit qui nous est imposé par la colonisation. Et nous y sommes donc, quand il y a eu le mariage civil, coutumier, il faut enregistrer ce mariage à la commune pour que ces enfants soient connus, les enfants issus du mariage soient connus et pour que ce mariage soit protégé et pour que l'homme et la femme ne puissent pas se comporter comme s'ils étaient en concubinage, bien en union libre.
Voilà, professeur. On va poursuivre le temps d'accueillir deux auditeurs. Justin Sévéry nous appelle des Bounia et Emery Kabamba est à Kinshasa. Justin, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, on parle aujourd'hui.
J'ai profité de l'occasion pour saluer tous les auditeurs de la radio Capi ainsi que l'invité.
Bien, Justin, on parle des unions libres. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça?
Ok. Bon, moi, j'ai une question par rapport à l'union libre. Maintenant, elle est de savoir, un polygame, il y a deux ou trois femmes dont il a mis au monde et en moins, il a doté coutumièrement. Mais pendant l'héritage, à cas de la mort du papa, ces enfants-là sont reconnus comme des héritiers. N'est-ce pas là une discrimination par rapport à la femme?
Ouais, vous dites que le monsieur s'est marié coutumièrement, c'est ça?
Oui, il y a deux ou trois femmes. Après sa mort, les enfants ici de cette union illégale-là sont reconnus comme des héritiers. N'est-ce pas là une discrimination par rapport à la femme?
Bien, merci. Emery Kabamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, je présente d'abord mes voeux à tous les auditeurs de Radio Kati et à vous-même.
Merci.
Je voudrais juste apporter une petite contribution par rapport au débat qui est en train de se dérouler.
Mmh.
Je pense que dans notre société actuellement, il faut peut-être évoluer un peu avec le temps. Parce que ce que le professeur a dit à un moment donné est très pertinent. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent en union libre du fait que la dot exigée par les familles est très importante. Et les personnes en question qui ont décidé de s'unir décident de faire comme le professeur a dit, Zela Moukoussé. Alors je pense que ce sont des choses dont la société devrait prendre conscience et donc il faut vraiment un débat national et social autour de cette question-là.
Mmh.
En ce qui concerne je voudrais ici, apporter un petit éclaircissement.
Oui.
Le mariage coutumier, tel que prévu dans notre code de la famille, et ce qu'on appelle le mariage célébration et le mariage enregistrement. Mmh. Le mariage coutumier est un mariage qui doit être enregistré après la célébration au niveau de la famille, doit être enregistré au niveau de l'officier de l'état civil.
Oui.
Mais ce mariage, selon l'article 380 du Code de la famille, ce mariage a des effets entre les époux et ceux qui y ont participé, donc c'est-à-dire la famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le mariage coutumier n'a aucune valeur légale. Non. Dès le moment où cette dot a été acceptée par la famille, a été versée,
C'est déjà le mariage, quoi. Oui.
C'est déjà le mariage.
Oui.
Donc, maintenant, il se peut qu'il y ait des processus de divorce, mais la loi a tout prévu, justement. Les mécanismes légaux sont là pour pouvoir, protéger chacun des conjoints. Mais je pense que le débat sur l'union libre doit être un débat qui doit être vraiment, vous faites bien d'en parler, parce que aujourd'hui, moi je suis avocat, aujourd'hui nous nous retrouvons justement devant des problèmes où des gens ont vécu pendant des très longues années ensemble.
Mmh.
L'un des conjoints, si on peut l'appeler comme ça, décède. Et les biens qu'ils ont acquis durant leur communauté, leur vie commune, et ils se posent des problèmes justement
de
la dévolution de ces biens-là par rapport à la succession.
Oui.
Donc vous voyez que ce débat est très important et je pense que le droit qui nous régit doit un peu évoluer par rapport à l'environnement social que nous connaissons. ma petite contribution un peu dans ce débat-là.
Merci, Emery Kabamba de Kinshasa. Professeur Adela.
Oui, oui, je remercie le monsieur Emery Kabamba. Il a touché le point le plus important qui, comme je l'ai dit au départ, contribue, n'est-ce pas, à cette émergence, à cet engouement vers les unions libres, la dot. Je crois que l'État congolais doit relégiférer. D'ailleurs, je crois que les dispositions du code de la famille ne sont pas claires sur la dot. On laisse la liberté à la coutume, aux parents, etc. On négocie. On devrait relégiférer, préciser le montant de la dot. Maintenant, la dot varie selon la tête de la fiancée, selon que celle-ci a étudié ou pas, selon que celle-ci a un emploi ou pas. Donc, je crois qu'il faut que l'État légifère et fixe le montant, une tranche, ne pas dépasser. Alors, pour ce qui est de notre ami de Bounia, M. Justin.
Et professeur, avant de parler, de passer à la question de Justin, il est arrivé quelque chose de très important. Lorsqu'il y a, vous vivez en union libre et que l'un des partenaires décède, il y a un problème de succession qui se pose à ce moment-là.
Effectivement, c'est parce que comme cette union n'est pas reconnue et comme l'union n'a pas reconnu, il n'y a pas les partenaires ou les conjoints n'ont pas décidé du régime de biens, ça devient compliqué. Donc, ça devient très compliqué. Je crois que l'État devra soit faire comme dans d'autres pays, comme en France, par exemple, où il y a le pacte civil de solidarité qui régit le couple non marié. Donc, notre État doit avoir le courage de regarder la réalité en face et revoir comme... l'Amérique a mal dit, revoir en fait, faire évoluer le droit. Depuis que nous avons hérité le droit, n'est-ce pas, le droit positif de la colonisation, il y a certaines dispositions qui sont là, qui ne sont pas conformes à nos réalités socioculturelles. Donc l'État doit revoir cela, faire quelque chose comme le pacte, etc.
Alors, avant de répondre à la question de Justin, nous allons accueillir Madame Liliane Chilemba, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Madame.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais soumettre un problème à l'invité.
Oui.
Mais j'aimerais qu'il me suive un peu attentivement parce que j'ai relaté un peu tout ce qui est arrivé par rapport à ma sœur.
Okay.
En fait, elle était mariée légalement et comme le couple ne concevait pas, elle a dû divorcer. Alors, elle a rencontré un monsieur quand même nanti, un Angolais, oui. Alors, le monsieur l'a aidé à finir tous les processus de divorce et tout ça. Alors, comme son désir était de concevoir, le monsieur l'a aidé à consulter des grands hôpitaux, des grands médecins. Alors, elle est arrivée à concevoir, bien sûr, avec lui. Alors, il a fait enregistrer l'enfant, lui a donné sa nationalité. Et maintenant qu'il n'est pas là, il a quitté le pays, il pose maintenant un problème de la garde de l'enfant. Alors, on s'est dit, lui, il dit qu'il veut garder la garde de l'enfant.
L'Angolais?
Oui. Mm-hmm. Il veut garder l'enfant, en fait. Alors, ma sœur aussi ne veut pas l'entendre de cette oreille. Elle a dit, bon, si je l'ai rencontré, c'était pour m'aider à concevoir, quoi. Alors, comme l'enfant est là, on ne sait pas alors comment s'en tenir. Alors, j'aimerais avoir des conseils auprès de l'invité.
Donc, on est dans une situation d'union libre?
Une union libre, bien sûr.
Oui. Professeur Adela, qu'est-ce que vous pouvez dire à Madame Liliane?
Oui, ça c'est un problème sérieux où pratiquement les enfants ne sont pas protégés. Cet enfant qui est né d'une union libre, en principe, il devrait se présenter devant la justice pour savoir quelle est dans le contexte congolais ici. Comme la femme, comme l'homme n'a pas versé la dot, l'enfant appartient à la famille de sa mère, en principe. Il n'a pas versé la dot. Je ne sais pas quel est le système de filiation, quel est le système matrilinéaire de la dame, mais s'ils sont du système, qu'importe le système, hein, matrilinéaire, patrilinéaire ou bilinéaire,
tant que l'homme n'a pas versé la dot, la femme, l'enfant là appartient à sa mère. Maintenant, c'est l'État congolais qui doit faire en sorte que cet enfant et cette mère soient protégés conformément à nos coutumes. Donc c'est un problème qui oppose déjà deux pays, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel est le que dit la loi en matière de mariage, la loi angolaise, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Mais chez nous ici, c'est des dispositions que je vous ai citées, mais en pratique, tant qu'il n'y a pas eu versement de la dot, et donc l'enfant appartient à sa mère,
à sa mère.
L'État congolais doit protéger cet enfant et sa mère dans ce sens-là.
Alors, quelles sont les démarches que madame peut faire, parce que le monsieur réclame son enfant, madame refuse, quelles sont les démarches qu'elle peut faire entreprendre auprès de la justice?
Mais si l'enfant est ici, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas envoyé en Angola. S'il est déjà en Angola, il faut que la dame entre en contact avec notre ambassadeur qui est à Luanda pour que les démarches soient menées auprès du gouvernement angolais pour que cet enfant soit rapatrié vers le Congo.
Donc, Madame Liliane nous a dit que le monsieur se trouve en Europe et il veut que son enfant puisse le rejoindre là-bas.
Mais s'il le veut, s'il est d'accord, qu'il vienne d'abord régulariser la situation, qu'il vienne verser la dot, et puis le reste sera sans problème.
Bien. Alors, revenons à la question de Justin qui nous dit un polygame, un homme a épousé plusieurs femmes et il a eu des enfants avec ces femmes-là. Et voilà, après sa mort, les enfants ont été reconnus. On leur a donné une part de biens, mais les femmes illégitimes ne sont pas deuxième, troisième bureau, ne sont pas droit à rien. Alors, il s'est dit, est-ce que ce n'est pas une injustice quelque part?
Oui, en quelque sorte. C'est une injustice, mais c'est la loi. C'est la loi qui le dit. Sur le plan coutumier, sur le plan donc du droit coutumier au village, là, quand l'homme meurt, les femmes ont droit aux mêmes honneurs, les femmes qui vivent en polygamie. Mais pour ce qui concerne la loi, quand les enfants qui sont nés hors mariage, tant qu'ils ne sont pas reconnus du vivant de leur père, ils n'auront pas droit à l'héritage. Mais s'ils sont reconnus, c'est-à-dire s'ils sont affiliés, hein, c'est ça le terme juridique qu'on utilise. Donc si le père les a déclarés comme étant ses enfants à l'état civil, à ce moment-là, quand il est décédé, ses enfants peuvent être appelés à la succession et bénéficier donc de l'héritage. Mais la femme, justement, malheureusement, les femmes ne font pas partie de personnes appelées à la succession, c'est-à-dire à l'héritage.
Oui, professeur, pour terminer, on a l'impression que les unions libres sont devenues, aujourd'hui c'est un phénomène socialement accepté, d'ailleurs il y a même certaines figures, personnalités qui vivent dans ce genre de situations, on ne parle même plus de mari, mais des compagnons, voilà, et puis apparemment la société commence à accepter ce genre de situations petit à petit.
Oui, je vous ai dit au départ que c'est un phénomène surtout urbain, au village, ce sont des cas rares. Si vous voulez vous marier, vous prononcez, vous avez une femme, vous voulez en épouser une autre, vous versez la dot, et ainsi de suite. Mais ici, en milieu urbain, c'est un phénomène qui va avec pratiquement la crise du mariage. Hein, et les gens, pour des raisons que j'ai citées, se livrent à ce phénomène. Je crois que il faut trouver des solutions pour qu'il y ait une procréation saine, pour que parce qu'on dit les familles fortes, les nations fortes sont des nations où les familles sont fortes. Et les familles fortes sont le résultat de mariages légaux, de mariages légitimes.
Oui.
Et c'est pour cela qu'il faut resocialiser au mariage, resocialiser les enfants au mariage, resocialiser les jeunes et rappeler à l'ordre ceux qui dévergondent, ceux qui ne se conforment pas aux dispositions légales ou aux dispositions coutumières relatives au mariage. Donc
oui,
il faut promouvoir, n'est-ce pas, des valeurs positives, des valeurs qui accordent une grande importance au mariage et pas aux unions
libre. Il faudra également, je l'ai dit avant, que l'État relégifère. Il a légiféré, mais je crois que ça ne suffit pas. Mmh. Il faut relégiférer sur le mariage, sur plutôt la dot. Parce que l'exorbitance de la dot fait que les jeunes gens ne sont pas capables de trouver tout ce qui est exigé pour cela. Et il faut aussi lutter contre le chômage de jeunes pour leur permettre d'avoir la possibilité de se constituer une dot et en vue de se marier en bonne et due forme.
Professeur Adela Kwanzaka, sociologue, nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et surtout de répondre aux préoccupations des auditeurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. À la prochaine.
Merci à vous.